l'écoute de RFI 20h, ici à Paris, 18h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Et c'est l'heure du grand journal du soir. Bonsoir Christophe Paget.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, le quatrième jour d'offensive israélienne sur l'Iran.
Et l'Iran promet de continuer à frapper Israël jusqu'à l'arrêt des attaques. L'Iran qui condamne ce soir l'attaque israélienne contre la télévision d'État. C'était en fin d'après-midi. Un acte ignoble et un crime de guerre. Nous entendrons dans ce journal le témoignage d'une habitante de Téhéran qui reste encore dans la capitale iranienne malgré les bombardements. Elle nous expliquera pourquoi. On s'interrogera aussi sur l'avenir des dirigeants iraniens, alors que le pays, déjà fragilisé, s'enfonce dans le conflit. Ce sera le dossier de ce 20h et ce sera avec Alice Froussard.
Et puis, il y a une grande ombre qui plane au-dessus de cette offensive israélienne en Iran. L'ombre du président américain Donald Trump, il n'a pas donné son aval à de telles opérations, mais il ne s'y est pas opposé non plus. D'où la situation actuelle. Quelle signification pour celui qui se voulait être le faiseur de paix? Eh bien, après ce grand journal du soir, nous appellerons nos collègues du journal La Croix qui se penchent sur le sujet. Autre titre du journal, Christophe Paget, le Canada, le G7 a ouvert ses portes ce lundi.
Oui, les 7 démocraties les plus industrialisées vont essayer de trouver une position commune sur ce nouveau conflit. Au menu également la guerre en Ukraine et celle économique lancée par le président américain Donald Trump. Notre envoyé spécial Muriel Paradon nous en dira plus. Enfin, Lila Olkinuor dressera le portrait de Blaise Maitre-Willi, première femme à prendre la tête du MI6, les fameux services secrets britanniques. Ce sera à l'automne prochain.
C'est donc le quatrième jour de l'offensive israélienne sur l'Iran et la riposte iranienne.
Ouais, depuis vendredi, les frappes israéliennes ont fait au moins 224 morts et plus d'un millier de blessés en Iran. Ce lundi, Israël dit avoir frappé à Téhéran des centres de commandement d'une unité d'élite des gardiens de la Révolution chargée des opérations extérieures. Et en fin d'après-midi, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé que la radio-télévision d'État iranienne était sur le point de disparaître. Auparavant, l'armée israélienne avait appelé les habitants du quartier dans lequel est située la radio-télévision iranienne à évacuer pour éviter d'être tués dans les frappes. Téhéran affirme qu'Israël a aussi pris pour cible un hôpital dans l'ouest du pays et dénonce un crime de guerre. Hier, 2 dépôts de carburant avaient également été frappés dans la capitale. Écoutez ce témoignage anonyme d'une habitante de Téhéran contactée par Nicolas Falaise. Sa voix a été modifiée à sa demande.
I have seen and heard some of the effects of the bombs sounds.
J'ai vu et entendu les effets de certaines bombes, les bruits, les lumières. C'est très loin d'ici, mais nous avons pu voir les flammes du réservoir de pétrole de Charanz. La détonation était très forte. Nous avons envisagé de quitter la ville, mais pas tout de suite. Je ne me sens pas en sécurité au moment où tout le monde fuit la ville. Il y avait beaucoup d'embouteillages, des gens tombaient en panne d'essence. Je ne me sentirais pas en sécurité d'être dans une voiture plutôt que chez moi.
Ce lundi, Téhéran avait fermé le grand bazar, le principal marché de la capitale. Téhéran qui a riposté à nouveau en tirant des missiles sur plusieurs grandes villes israéliennes. 11 personnes de plus ont été tuées, ce qui fait 35 morts depuis le début de la riposte iranienne vendredi soir. Alors, jusqu'où ira l'escalade, cette escalade dont on parle aujourd'hui? C'est la question que tout le monde se pose alors que les attaques directes atteignent des niveaux jamais connus jusqu'ici. Alice Froussard, bonsoir.
Bonsoir.
Alice Froussard du service international de RFI. Alors la suite dépend de plusieurs inconnus, notamment évidemment des intentions réelles de l'Iran, mais surtout d'Israël.
Oui, plus les jours passent, plus l'objectif semble clair. Au fond, pour Israël, il n'est pas tant question de s'attaquer aux infrastructures nucléaires et militaires de l'Iran que de faire tomber tout le régime des mollahs. Et cela changerait considérablement la nature de la confrontation, mais la question qui reste en suspens, c'est celle de l'après. À quoi ressemblerait l'Iran sans son guide suprême? Quel régime après ce régime théocratique? Écoutez Guillaume Lascandjarias, il est historien militaire, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne et ancien chercheur au Collège de défense de l'OTAN. Il était l'invité d'Anne Cantner sur RFI cet après-midi.
Y a-t-il des cadres? Y a-t-il des oppositions structurées? Je pense que la réponse est plutôt négative. Et donc je pense que pour l'administration Trump, comme pour beaucoup de chancelleries européennes, ça doit être une véritable interrogation. Qui pour succéder à un régime qui, malgré ses crimes, est connu. Un régime qui est connu, on peut discuter avec lui, même si on ne peut pas forcément le supporter.
En d'autres termes, mieux vaut connaître son ennemi et en tirer parti, et c'est dans ce contexte que Donald Trump a une nouvelle fois appelé l'Iran à négocier immédiatement avant qu'il ne soit trop tard.
Mais Alice, est-ce que l'option diplomatique semble encore envisageable ?
Difficile à dire, surtout quand les gardiens de la révolution iranien viennent d'appeler les habitants de Tel Aviv à évacuer dès que possible, car ils prévoient, je cite, l'attaque de missiles la plus importante de l'histoire sur le sol israélien. De son côté, Israël surenchérit, annonce qu'il frappera le dictateur iranien partout où il se trouve, mais il est vrai que certains analystes commencent à évoquer ces hypothèses. L'Iran est en difficulté, il aurait fait savoir qu'il souhaitait d'abord et avant tout la fin des hostilités, mais qu'il était ouvert au retour des négociations sur le nucléaire si les États-Unis ne se joignent pas aux attaques. C'est en tout cas ce qu'indique le Wall Street Journal. Le quotidien américain précise qu'une pause pourrait surtout permettre à l'Iran de se ressaisir et à la communauté internationale d'exercer une pression sur Israël, du moins de tenter.
Téhéran mise donc sur le fait que les Israéliens n'ont pas de stratégie de sortie claire.
Oui, à un moment ou un autre, ils vont avoir besoin des États-Unis, car cela fait 80 ans que le soutien à Israël est l'un des piliers de la politique étrangère des États-Unis. L'Iran attend donc de vraies garanties que les Américains ne participeront pas. En revanche, même si cela ouvre une perspective de reprise des pourparlers, rien n'indique que l'Iran soit prêt à faire de nouvelles concessions dans le cadre des négociations nucléaires.
Merci Alice Froussard.
Et c'est dans ce contexte que le G7 s'est ouvert ce lundi au Canada.
Mais le G7, ce club qui réunit les 7 démocraties les plus industrialisées, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, États-Unis, France, Italie et Japon. Il devait être dominé par des questions économiques, d'énergie et de transition numérique, mais cette actualité, celle du conflit, s'est imposée. Muriel Pardon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes au Canada, en direct du G7. On parle beaucoup du conflit entre Israël et l'Iran.
Oui, et les dirigeants du G7 sont réunis en ce moment même autour d'une table. Nous devons nous adapter à un monde plus dangereux, a dit le Premier ministre canadien Mark Carney à l'ouverture de cette réunion. Nous renforçons notre défense, mais cela doit se faire aussi dans la prospérité économique, évoquant l'un des enjeux initiaux de ce G7, la guerre commerciale initiée par les États-Unis avec la hausse des tarifs douaniers. Mais pour revenir au conflit entre Israël et l'Iran, Donald Trump s'est exprimé. Il a appelé les Iraniens à négocier avant qu'il ne soit trop tard. Pour parler entre Washington et Téhéran devait avoir lieu ce dimanche sur le nucléaire, mais elles ont été ajournées après les frappes sans précédent d'Israël sur l'Iran et la riposte de Téhéran. Nous sommes préoccupés par le programme nucléaire, mais nous devons d'abord nous concentrer sur la désescalade du conflit et la manière d'y arriver, a déclaré de son côté Keir Starmer, le Premier ministre britannique. C'est la position de nombreux pays européens, comme la France et l'Allemagne également, qui cherchent à obtenir un consensus avec le concours des Canadiens pour essayer de signer une déclaration commune sur ce sujet. Tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Le Japon, par exemple, a été le seul pays à condamner fermement les frappes israéliennes contre l'Iran. Les discussions entre les dirigeants du G7 vont se poursuivre lors d'un dîner de travail ce soir consacré justement aux questions géopolitiques.
Merci Muriel Pardon avec les moyens techniques de Julien Boileau. Volodymyr Zelensky est lui aussi attendu au Canada. Le président ukrainien a dit vouloir parler avec Donald Trump d'éventuels achats ukrainiens de matériel militaire américain. Kiev qui dit avoir reçu de la Russie 1245 nouvelles dépouilles de personnes tuées pendant la guerre, ce qui fait plus de 6000 corps remis par Moscou depuis une semaine. C'était la dernière étape de l'accord conclu par les deux pays au début du mois à Istanbul.
Aux États-Unis, il a été arrêté, cet homme accusé d'avoir tué une élue démocrate du Minnesota et son mari et d'avoir tenté d'en assassiner un autre.
Oui, annonce faite par le gouverneur de l'État Tim Walz. Il a été arrêté à Green Isle, à plus d'une heure de voiture à l'ouest de Minneapolis. Le meurtre de samedi matin avait secoué le Minnesota, un État plutôt tranquille du nord des États-Unis, et ce malgré l'atmosphère politique très tendue dans le pays en général. Depuis, des centaines de policiers étaient à la recherche de cet assassin, accusé de s'être déguisé justement en policier pour tuer des élus et leurs conjoints à leur domicile respectif. Le sénateur John Hoffman, qui lui a survécu, a été opéré après avoir été gravement blessé. Il a reçu 9 balles, mais il avance vers la guérison. C'est ce qu'a affirmé le gouverneur du Minnesota.
RFI 20h09, ici à Paris. Vous êtes à l'écoute du Grand Journal du Soir avec Christophe Paget. Et Christophe, dans le contexte international actuel, eh bien, c'est ouvert ce lundi. Le salon aéronautique du Bourget, c'est en banlieue parisienne.
Un salon ouvert par le Premier ministre François Bayrou sur une polémique. Les stands de plusieurs industriels israéliens qui exposaient des armes offensives ont été condamnées, leurs accès ont été bloqués par de grands tissus noirs. Explication de François Bayrou, la situation à Gaza moralement inacceptable impose de marquer réprobation et distance. Le ministre israélien de la Défense parle d'une décision scandaleuse et sans précédent qui sent les considérations politiques et commerciales. Reportage au Bourget de Justine Fontaine.
De hautes palissades noires clôturent les stands d'Elbit Systems, d'IAI ou encore de Raphaël, qui font partie des plus grandes entreprises israéliennes du secteur. Shlomo Toaf, vice-président de Raphaël, fabricant de missiles notamment, est indigné.
Un de nos employés a appelé les organisateurs. On lui a dit que c'était une demande du gouvernement français. C'est étrange car la semaine dernière, un tribunal français qui avait été saisi a conclu que nous pouvions participer au salon. Malgré cette décision, le gouvernement ne nous laisse pas monter notre stand. C'est scandaleux.
Le Premier ministre français François Bayrou, qui a inauguré le salon aujourd'hui, assure que la décision a été prise car des armes offensives allaient être présentées, contrairement, selon la France, à ce qui avait été convenu avec Israël en amont du salon. Sur l'un des stands clôturés, on aperçoit encore un logo « Combat Proven », testé au combat, autrement dit utilisé à Gaza, en Cisjordanie ou encore au Liban. C'est l'un des arguments commerciaux habituellement mis en avant par les entreprises israéliennes pour vendre leurs armes et systèmes de défense. Un argument qui se retourne aujourd'hui contre elles en raison des accusations de génocide à Gaza.
Un reportage signé Justine Fontaine.
Au Kenya, le numéro 2 de la police se met en retrait.
Oui, après la mort dans un commissariat d'un enseignant, c'était au début du mois, et alors que débute l'enquête sur ce décès, un enseignant qui avait été arrêté pour des publications sur les réseaux sociaux accusant le numéro 2 de la police de corruption. La police avait d'abord affirmé que l'enseignant s'était suicidé, affirmation mise à mal par l'autopsie. Deux policiers et un civil ont depuis été arrêtés. Dans le nord de la France, les candidats à l'exil sont de plus en plus nombreux à vouloir rejoindre l'Angleterre. En attendant des conditions météo clémentes qui leur permettraient de faire la traversée, ils sont de plus en plus nombreux à cohabiter dans les camps de migrants, ce qui entraîne parfois des drames. Ce week-end, deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées pendant des fusillades. Ça s'est passé dans le camp de Pontarozo, près de Dunkerque. Sylvie Coffi.
Ce dimanche, une personne est décédée après avoir été touchée par balle dans la tête. La veille, dans la même zone, une autre fusillade a fait un mort et plusieurs blessés. Des violences habituelles, selon Claire Millot de l'association Salam.
Quand il y a des armes à feu qui entrent en action, c'est une histoire soit de règlement de compte entre passeurs, soit de règlement de compte entre un passeur et puis un client, entre guillemets, qui n'a pas fait ce qui lui était demandé, ou que c'est dans la logique de la situation dans laquelle les gens vivent. Ils sont entre les mains de passeurs qui sont tout puissants parce que ils sont dans des conditions épouvantables sur un camp dans la boue, sans toilette, sans douche, avec à devoir tendre la main pour avoir à manger quand il y a des associations qui viennent. C'est humiliant.
Ces derniers jours, à la faveur d'une météo propice, plus de 900 migrants ont traversé la Manche en une seule journée.
Le fait que les gens passent, malheureusement, le fait qu'une grosse journée de passage ou nuit de passage ne fait pas que la tension diminue sur nos camps.
Des traversées dangereuses, au moins 15 personnes ont trouvé la mort depuis le début de l'année.
Sylvie Coffi, en Allemagne, à présent un médecin syrien condamné à perpétuité.
Oui, pour crimes contre l'humanité, il était accusé de torture d'opposants au régime de Bachar al-Assad. Des crimes commis sur des détenus dans des hôpitaux militaires de Damas et de Homs pendant la guerre civile. Il était arrivé en Allemagne en 2015, à la Moussa, il exerçait comme chirurgien orthopédique, mais il a été reconnu par d'autres réfugiés et arrêté, c'était en 2020. Son procès fleuve, qui vient de se terminer et qui s'est tenu à Francfort, aura duré plus de 3 ans.
Et puis au Royaume-Uni, Blaise Matrioli, qui prend la tête du MI6.
Oui, les fameux services secrets britanniques, et c'est la première femme à le faire dans la vie réelle, dans la fiction, dans les derniers James Bond, c'était déjà une femme. Blaise Matrioli succédera cet automne à Richard Moore, qui était le chef des renseignements depuis 2020. Blaise Matrioli sort donc de l'anonymat, après une déjà longue carrière. Lila Olkinwara.
Une nomination historique pour le Premier ministre britannique Keir Starmer, une candidate idéale dans un contexte d'instabilité mondiale et de nouvelles menaces pour la sécurité britannique, pour David Lammy, le ministre des Affaires étrangères. À la différence de son prédécesseur Richard Moore, ancien diplomate, Blaise Matrioli est agent des renseignements. Selon les quelques informations divulguées par le gouvernement depuis sa nomination, elle a d'abord étudié l'anthropologie à Cambridge et c'est en 1999 qu'elle entre dans les services comme officier de terrain. Elle passe une grande partie de sa carrière entre l'Europe et le Moyen-Orient, parle arabe et celle qui à 47 ans prendra la tête du MI6 a déjà occupé de nombreux postes de direction. Pour les amateurs de la saga James Bond, elle était jusqu'alors comme le personnage de Q, la directrice de la technologie et de l'innovation du MI6. Décrite par ses collègues comme une experte en technologie et geek autoproclamée, la nomination de Blaise Matrioli semble surtout répondre aux nouveaux défis du monde du renseignement, sur fond de développement de l'intelligence artificielle et de croissance de la menace cyber.
Et on termine ce journal avec le bac en France, Romain, puisqu'aujourd'hui, cette semaine d'examen a débuté, et c'est une tradition par le bac philo, évidemment. 530 000 lycéens de terminale ont planché sur des sujets aux thèmes très variés, comme d'habitude. En filière générale, les lycéens avaient le choix entre « Notre avenir dépend-il de la technique ?» et « La vérité est-elle toujours convaincante ?» Prenez des notes, j'espère.
Mais ça, c'est de très bonnes idées pour le débat du jour, ça.
En filière technologique, notez toujours, sommes-nous libres en toutes circonstances?
Okay.
Bonne question. Ou avons-nous besoin d'art? Également une bonne question.
Il faut qu'on réponde on va répondre avec Olivier Pron à ça dans le journal des sports.
Nous, en radio, on a besoin de la technique.
À coup sûr. Oh, ça, c'est joli.
Ah!
Et on salue nos réalisateurs. Merci beaucoup, Christophe Paget, pour
Merci
le grand journal du soir. Il est 20h15 ici à Paris.
RFI Soir.
Romain Ozoui.
On va jeter un coup d'œil au programme des prochaines minutes avec Hélène Avril qui est à la réalisation ce soir et cette grande ombre qui plane au-dessus de l'offensive israélienne en Iran, l'ombre de Donald Trump, le président américain. Il n'a pas donné son aval aux opérations qui se déroulent depuis la fin de semaine dernière, mais il ne s'y est pas opposé non plus, d'où la situation actuelle. Quelle signification pour celui qui se voulait être le faiseur de paix? Réponse à suivre avec nos collègues du journal La Croix qu'on appellera et qui se penche sur le sujet dans leur édition à paraître demain mardi. Et puis une histoire dans le chaos de Gaza, histoire d'une famille sauvée sans le savoir par des Américains de confession juive. Un scénario digne d'un film, rendu possible par les réseaux sociaux. C'est notre correspondante à Ramallah qui nous racontera cette histoire. Mais pour l'heure donc, les sports. Bonsoir Olivier Pron.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Allez, le foot au programme évidemment, car se poursuit le mondial des clubs aux États-Unis.
Ces matchs en bois, ces stades à moitié vides et sa chaleur torride, suite de la nouvelle compétition de football circus ce soir, dans moins d'une heure en fait, à Atlanta, ça commence vite, Chelsea face au Los Angeles FC, l'équipe des ex-internationaux français, Olivier Giroud et Hugo Lloris, mais aussi de la toujours panthère gabonaise Denis Bouanga, héros de son équipe, puisque c'est lui qui l'a qualifié pour ce mondial en étant buteur décisif au bout d'un match de barrage contre les Mexicains de Club América. L'ancien joueur de Lorient et de Saint-Etienne, enthousiaste à l'idée de disputer ce nouveau tournoi.
Ça va être magnifique, je pense, pour les États-Unis. Ce tournoi avant la Coupe du Monde va être beaucoup regardé et va être cool aussi au niveau des joueurs. C'est une compétition qui est pour moi très belle. Et Los Angeles a la chance d'y participer. On a tout fait pour. L'objectif, c'est de se confronter à de grandes équipes, de savoir où on en est, tout simplement, de comparer ces équipes aux équipes de MLS. Personnellement, moi, j'espère que on va gagner des matchs, que LFC part dans l'objectif de gagner et de ressortir de cette compétition très grand.
Eh ben pourquoi pas, Denis Bouanga, le Gabonais du Los Angeles FC en piste dès 19h TU, tout à l'heure donc face aux Blues de Chelsea, autre match dans la soirée nuit, hein, même 22h TU, Boca Junior, Benfica Lisbonne, et puis à 1h temps universel, entrée en lice de la deuxième des quatre équipes africaines de la compétition, l'Espérance Tunis face au Brésilien de Flamengo, ce sera à Philadelphie.
Voilà pour le foot, le basket à présent, Olivier, la NBA.
Avec la finale du championnat nord-américain, donc la NBA qui se poursuit aussi cette nuit, match 5 à 0h30, temps universel, entre Oklahoma City chez lui et les Pacers de l'Indiana. Les Pacers de l'Indiana du Camerounais Pascal Siakam. Hein. De partout pour l'heure entre les deux équipes, la finale se joue, on le rappelle, au meilleur des 7 matchs.
On va terminer le journal des sports en Europe pour parler tennis.
Exactement. Après la terre battue, c'est la saison sur gazon qui bat son plein, Romain, à moins de 2 semaines du début du tournoi de Wimbledon, 3e levée du Grand Chelem de l'année. Chez les hommes, on joue au Queens, à Londres et à Halle, en Allemagne. Sans grosse surprise, hein, chez les favoris, tout le monde est passé, Medvedev, Tsitsipas notamment, et le français Alice qui a battu un autre français, Bonzi. Le nouveau classement mondial a été publié ce matin, comme chaque lundi. Sinner, Alcaraz, Zverev sont toujours sur le podium, mais l'Allemand voit revenir juste derrière lui son vainqueur hier à Stuttgart, l'Américain Taylor Fritz, nouveau numéro 4 mondial. Premier français, Arthur Fils, blessé malheureusement depuis Roland-Garros. Il est quand même 15e dans la hiérarchie. Chez les femmes, pas de changement non plus dans le top 3, Sabalenka, devant les Américaines Goff et Pegula. Première française, Loïs Boisson, se souvient de son parcours phénoménal à Roland-Garros. Elle est 67e. Côté jeu, à Berlin, la Tunisienne Once Jabeur a franchi le premier tour, une victoire qui fait du bien. Elle est désormais 61e dans la hiérarchie. Elle a sorti la Britannique d'Oléide 766.
Ah ben ça c'est complet. Merci beaucoup Olivier Pron pour ce journal des sports. Il est 14h19 à Washington.
34e journée, donc ce lundi, de la guerre entre Israël et l'Iran, et la journée qui a été marquée par une frappe israélienne qui a touché le bâtiment de la radio-télévision d'État iranienne, ce qui a immédiatement coupé la diffusion en direct. Il faut savoir qu'outre les installations nucléaires et militaires, des postes de police, des ministères, bref, des lieux de pouvoir en Iran sont visés par Israël. Bonsoir Gilles Biasset.
Bonsoir.
Journaliste au service Monde du journal La Croix. Alors cette escalade militaire, évidemment, elle va occuper votre édition de demain mardi. Et si cette situation est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que le président américain Donald Trump ne s'y est pas opposé. Et vous consacrez d'ailleurs un article sur la position américaine dans le conflit. D'abord, est-ce que ce qui se passe actuellement entre Israël et l'Iran sonne comme un constat d'échec pour Donald Trump, lui qui se voulait être le faiseur de paix?
Oui, bah, d'une certaine façon, parce qu'on sait qu'il avait entamé des discussions avec l'Iran, des discussions sur lesquelles il était plutôt optimiste. Et puis là, évidemment, donc il était contre cette opération militaire israélienne. Il l'a dit à Netanyahou. Donc, c'est incontestablement le constat d'un échec, en tout cas déjà pour convaincre l'allié israélien de ne pas frapper. Et puis, plus largement, effectivement, Trump dit depuis même sa campagne électorale, qui lui, c'est un homme de paix, qui veut faire la paix. Que ce soit en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient. Force est de constater que depuis qu'il est arrivé, les choses ne sont pas apaisées, au contraire.
Que sait-on de la position américaine avant le déclenchement des hostilités israéliennes à l'encontre de l'Iran?
On sait que jusqu'au bout, Trump a essayé de convaincre Netanyahou de ne pas frapper pour laisser une chance à ce dialogue qu'il avait instauré, ces négociations que lui-même avait instauré avec l'Iran, et donc il nous disait qu'elles étaient ces discussions étaient sur le point d'aboutir. Donc jusqu'au bout, on sait qu'il a essayé de convaincre Netanyahou, et on sait aussi par ailleurs que depuis quelques semaines, les relations sont plus compliquées entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Déjà, on l'a vu à propos de ce qui se passe à Gaza ces dernières semaines, où Trump a fait comprendre qu'il n'était pas d'accord avec les dernières initiatives israéliennes. Et encore une fois, je pense que le plus important, c'est cette aspiration à une normalisation dans la région qui est le projet de Trump. On l'a vu lors de son déplacement en Arabie Saoudite, où il avait annoncé des jours meilleurs pour le Proche-Orient, et son projet un peu fantastique de rivière à Gaza. Mais c'est le discours qui est le sien, et c'est l'image qu'il veut projeter d'un homme, d'un faiseur de paix. Et on voit bien qu'il n'arrive pas non seulement à rétablir le calme, mais même des alliés proches comme Israël ne suivent pas ses recommandations. Donc c'est quand même, effectivement, on est loin de l'homme de paix qui ambitionnait d'avoir le prix Nobel et qui voulait ramener la paix partout.
Benjamin Netanyahou, finalement, fait cavalier seul. Il bénéficie du soutien américain, mais il ne s'embarrasse pas, finalement, de ce que pense Donald Trump dans ce qu'il décide.
Oui, c'est un peu ça. On pourrait presque dire qu'un affront, le terme, c'est sans doute trop fort, mais on a vraiment le sentiment quand même que Netanyahou a tordu le bras de Trump dans cette affaire. Donc, c'est pas... effectivement, la stature de Donald Trump n'en sort pas grandi. C'est quand même le sentiment qu'il n'a pas pu peser dans les événements de ces derniers jours. Donc, pour un président des États-Unis, qui plus est pour un président des États-Unis, il n'y a pas longtemps, dans une interview dans un hebdomadaire américain, Trump disait que son premier mandat pour lui avait été compliqué, il s'était agi de survivre, mais que là, il s'amusait beaucoup parce qu'il était non seulement président des États-Unis, mais président du monde. Bon, on a l'impression qu'il y a quand même ces derniers jours ont montré que c'était encore loin d'être le cas.
Et comme vous le disiez, ça va à l'encontre, évidemment, des projets de Donald Trump pour la région. Mais dès lors, que peut faire le président américain? Hier, il a appelé l'Iran et Israël à, je cite, trouver un accord. Il a dit qu'il était possible, je cite, possible, que les États-Unis s'impliquent dans le conflit. Ça peut se traduire comment, ces déclarations-là?
Je pense qu'il s'agit là d'une rhétorique assez classique et habituelle de Trump, avec des phrases très vagues, tout c'est possible, il envisage, tout est ouvert, c'est assez classique chez Trump. Il y a quand même aussi pour lui un enjeu de politique intérieure, parce que le camp MAGA qui est le sien, sa base, elle est contre toutes les opérations militaires, elle est isolationniste, elle ne veut pas que les États-Unis s'engagent dans des conflits en Afghanistan et en Irak, elle est toute résolument isolationniste. Et donc là, évidemment, on voit bien que Trump est pris entre à la fois cette base MAGA et puis quand même le besoin de soutenir l'allié israélien, notamment lors des opérations militaires. Donc, c'est une période compliquée pour Donald Trump et il s'en sort avec des phrases comme ça creuses qui n'engagent personne.
Et la situation résumée par le titre de cet article que vous publiez demain, mardi, dans La Croix. Donald Trump pris à revers par l'allié israélien. Article à retrouver évidemment également sur le site internet de La Croix. Merci Gilles Biassette.
Merci.
Alors également au Proche-Orient, cette histoire à présent, histoire née dans le chaos de Gaza, histoire d'une famille sauvée sans le savoir par des Américains de confession juive, scénario digne d'un film et rendu possible ce scénario par les réseaux sociaux et par la bonté discrète mais puissante d'une jeune trentenaire nommée Anna, histoire qui nous emmène à Gaza, au Caire et à Brooklyn et que nous raconte pour RFI Amira Swilem.
Dans le tourbillon du Caire, une amie me présente Marwen. Un Palestinien d'une trentaine d'années. Le jeune homme a l'air un peu ailleurs. À 300 km de là, certains de ses amis vivent sous les bombes. Il tente de les aider comme il peut.
J'ai posté un message sur mon compte Instagram. J'ai expliqué que j'essayais de fournir des tentes à des gens à Gaza et que ceux qui voulaient participer pouvaient me contacter. C'est comme cela que tout a commencé. Je ne me souviens pas avec précision du montant que l'on a réussi à lever, mais je crois que c'était entre 80 et 90 000 dollars en tout.
La magie des réseaux sociaux opère. Parmi ceux qui répondent à son appel, il y a Anna, trentenaire de Brooklyn. C'est elle qui va contribuer à lever le gros de la somme.
Je descends d'Ukrainiens juifs qui ont subi des pogroms en Ukraine au début du XXe siècle. Ils ont dû fuir leur village, certains ont été assassinés. Je sais que si nous sommes vivants, nous, c'est parce que des personnes ont été bonnes avec mes ancêtres. Comme j'ai bénéficié de cette gentillesse, j'estime que c'est à mon tour d'agir de la sorte avec les autres.
Anna a été élevée dans une famille juive pratiquante. En hébreu, Tikkun Olam signifie « réparer le monde », un précepte du judaïsme qu'elle tente d'appliquer à son échelle. Grâce aux fonds levés par Anna auprès de la communauté juive de Boston, 9 Gazaouis ont pu quitter l'enclave. À l'époque, chaque passage se monnaie aux alentours des 5000 euros par tête. À payer cash à une agence de voyage égyptienne. Nous décidons de joindre l'un des Gazaouis exfiltrés. Sofiane est ingénieur en informatique. Il est établi à Boston désormais.
Allô. On a décidé de quitter Gaza quand le cessez-le-feu a pris fin et que les Israéliens ont menacé d'entrer à Rafah. On s'est donc dit que la seule solution était finalement de quitter Gaza, d'autant que ma femme était enceinte.
Le 7 février 2024, jour de son départ de Gaza, restera gravé dans sa mémoire à jamais. Quelques heures seulement avant le passage de la frontière, son épouse donne naissance à sa deuxième petite fille.
J'ai appelé ma fille Anne.
Et quand tu l'as appelée ainsi, tu ne savais rien de Anna. Tu ne connaissais pas son prénom.
Non. Et d'ailleurs, j'ai ri là. Waouh, c'est fou que j'ai choisi ce prénom-là. Je viens d'apprendre son prénom grâce à toi.
C'est beau. Anne et Anna. J'espère que vous vous rencontrerez un jour.
Anne et Anna. Oui, j'espère. Je veux lui présenter Anne, la petite Anne. Ce bébé miraculé né à 3 heures du matin et qui à 7 heures était à la frontière pour quitter Gaza.
Anna souhaitait rester discrète, car elle estime que la vraie générosité n'attend rien en retour. Sofiane a demandé son contact. Loin du fracas des bombes, Anne et Anna vont enfin pouvoir faire connaissance. Amira Swilem, Ramallah, RFI.
Et retour à Paris. Et dans une minute, ce sera Afrique Soir, la première édition de ce lundi avec Zéphirin Quadio. Et à la une, ces menaces des États-Unis. La liste des pays dont les ressortissants pourraient être interdits de voyage aux États-Unis, ben cette liste, elle pourrait être élargie. Ce sont les menaces proférées par Washington. 36 nouveaux pays seraient visés par ces restrictions. Et parmi eux, 25 États africains. On en parle dans une minute. Ne bougez surtout pas. La session soirée de l'info, elle se poursuit pendant encore 1h30 sur Radio France Internationale.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Mali, se dirige-t-on vers une présidence à vie du chef de la junte? Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi accordant au général Goïta un mandat de 5 ans, renouvelable sans élection jusqu'à la pacification du pays. On en parle.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
Vous êtes étudiant, vous aimez la littérature et l'écriture ? L'Agence universitaire de la francophonie et RFI organise la 7e édition du prix RFI AEF des jeunes écritures. Rédigez une nouvelle commençant par « Je ne peux pas raconter d'où je viens, j'ai tout oublié ». Extrait de la pièce de théâtre « Passeport » d'Alexis Michalik. Et imaginez la suite avant le 30 juin. Plus d'informations sur auf.org.